יאמרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? Si vos enfants viennent vous demander, c'est quoi cet avoda, ce service que vous faites là, le soir du 15, c'est-à-dire la nuit du Seder, comme un Pessah, ils vont vous demander à quoi vous jouez là avec vos trucs. Vamartem zever Pessahu Hashem. Alors vous répondrez, j'ai fait le Korban Pessah pour Hachem, et vous allez un peu raconter un petit peu ce qui s'est passé, et on cite un pasouk qui dit « Vaikod ha'am vaistachavu » quand on a raconté tout ça, le peuple s'est prosterné devant Hachem. Cette question-là, « Ma ha'avoda azot lachem » quel est ce travail, cet avoda pour vous? C'est la question que on attribue au Racha dans la Agavat Pessah. Mais nous, dans la Agada, on répond Ata Hakel Chinav. Tu vas lui agacer les dents si. Puisqu'il est un peu agressif comme ça, il faut lui répondre agressivement aussi. Or, dans la Torah, c'est pas marqué comme ça. Dans la Torah, on dit ce qu'on fait, on fait le Korban Pessah. Et on va expliquer le Korban Pessah. Alors, seulement ce qui est marqué, c'est ce à quoi l'auteur ici fait. L'auteur, c'est le gendre de Rabbi Yitzhak Utner, du Pachad Yitzhak. Rabbi Yonason David, il s'appelle. C'est le Rosh Yeshiva, la Yeshiva qui porte le nom de Pachad Yitzhak à Yerushalayim. C'est un grand bonhomme. À la fin de sa vie, Rav Volbe, il allait discuter avec lui. Volbe, il a discuté avec Rabbi Yitzhak Koutner quand il était vivant. Après Rabbi Yitzhak Koutner, il allait discuter, quand il voulait discuter, il discutait avec Rabbi Yonasson. Alors, Rabbi Yonasson, il fait remarquer que dans le pasouk, c'est marqué, lui, il a posé une question, c'est-à-dire, vos enfants vont vous poser des questions. Va Martin, vous direz, Zevar Pesachou la chaîne. Il manque quelque chose. On aurait dû dire « Vamartem Elav ». On aurait dû dire « Vous allez lui répondre » ou « leur répondre » si on voulait dire. Ça veut dire qu'on ne lui répond pas à lui en particulier. Alors que chez les trois autres enfants, on s'adresse à eux. Ici, on dit simplement, va Martin, vous direz. Et puis ensuite, à la fin du verset, on dit, va Ikod Ha'am, on rapporte que le peuple s'est prosterné. Et Rashi explique pourquoi ils se sont prosternés, ils ont entendu ça. Parce que al-besura ta-geula ubiyat ha-aretz, sur l'annonce qu'il aurait faite qu'ils vont être libérés, parce que c'est pas ce pasouk là il leur a été dit encore en Égypte. Et deuxième bonne nouvelle, ils vont être amener en Eretz Israël. Vous allez d'abord sortir d'Égypte, et ensuite, pas simplement, vous êtes, voilà, n'importe où. Non, vous allez en Eretz Israël. Et troisième bonne nouvelle, voilà, vous aurez des enfants. il y aura des générations. C'est sur cette troisième annonce, cette bonne nouvelle, savoir il y aura des générations, vous allez avoir des enfants, c'est là-dessus qu'ils se sont prosternés. Et dans le passage, c'est marqué juste après. Vayelchou, ils sont allés et ils ont fait effectivement ce qu'on leur demande, le commandement. Puisqu'ils ont été mekabel, puisqu'ils ont accepté sur eux, le passage dit c'est que le valide comme s'ils avaient fait. Alors, il a l'intention d'essayer d'expliquer un peu plus ce qui se joue là. Dans cette question et dans ses réponses. Le galout et la libération sont deux choses qui ont été annoncées à Abraham Avinu. L'alliance Brit Benatarim, l'alliance entre les morceaux, Abraham, vous vous souvenez, tombé sur lui une grande torpeur et quelque chose de totalement effrayant. Et Hachem lui a parlé dans son rêve et lui a annoncé le galout et la Géoula. Mais l'introduction dans le texte que Hachem lui a dit, quand il lui a annoncé que il aurait eu le galout et la Géoula. Avant d'annoncer ça, Hachem lui a dit, Ani Hachem, je suis Hachem, Asher Hotzeticha me'Ur Kasdim, je t'ai fait sortir d'Ur Kasdim. Ur Kasdim, c'est donc la ville où Avraham Avinu a été élevé. Natet lecha et haaretz hazot lerishta. Pour te donner en héritage cette terre. Et il lui a dit de façon un peu allusive. Enfin, il lui a d'abord dit rappeler le projet de Nimrod qui était de le brûler à Abraham et lui rappeler que je t'ai sorti de Ur Kasdim, c'est-à-dire c'est pas simplement j'étais à Ur Kasdim mais je t'ai fait sortir. Ur Kasdim, tu étais au fond de la fournaise, d'accord, dans laquelle Nimrod t'avait jeté, et je t'ai sorti de la fournaise, je t'ai fait sortir de Ur Kasdim. Ça veut dire, ça ressemble beaucoup à la structure. Les Israël étaient esclaves en Égypte, vous les faites sortir, et puis je vous amène en Eretz Israël. J'ai fait un S, parce que comme dit Ramban, je veux te donner cette terre, et c'est pour pouvoir te la donner que je t'ai maintenu en vie, effectivement. Et la question se pose, c'est une question classique, pourquoi est-ce que cette chose-là n'est pas explicitée? Pourquoi est-ce que l'histoire de la fournaise n'est pas marquée explicitement dans la Torah? C'est une grosse affaire. Pourquoi c'est pas marqué? Et dans la Gemara, on répond que c'est parce que cette chose-là, elle ne pouvait pas être faite par un envoyé. Il a fallu que ce soit Akadosh Baruch Hu lui-même qui s'en occupe. Hachem, vous connaissez le Midrash, C'est le malheur Gabriel qui a dit, je vais aller éteindre la fournaise pour sauver Abraham. Et Hachem dit, non, c'est moi qui y vais parce que je suis seul, Ani Yachid Baolam, et lui, il est Yachid dans son monde. Yavo Yachid, mais il faut que c'est une histoire d'individu, pas individu au sens du, mais c'est un Yachid qui s'occupe d'un Yachid. En vérité, ce Nes-là, il est dit encore d'une autre façon allusive. Quand Abraham avait nous dit, Anochi, Afar, Vaefer, je suis poussière et cendre. Poussière, on vient de la poussière, l'être humain a créé la poussière, mais pourquoi cendre? Parce qu'en réalité, j'aurais dû être brûlé dans la fournaise. Donc, en réalité, je suis cendre. Bon, ça c'est déjà dans la. En fait, il y a encore une autre occurrence où ce Nes-là est dit de façon allusive. C'est marqué quand on parle des cinq et des quatre rois, là, avec leur guerre. C'est marqué, Vahi bimei Amraphel. Ce fut au temps de Amraphel, et il y a la liste des rois. Chazal disent, ou Nimrod. Il y a plusieurs noms, parce que les gens, leur nom, en fait, ils changent au fur et à mesure que ils font telle ou telle chose. On les appelle d'après ce qu'ils sont en train de faire. De toute manière, les noms qu'on donnait à cette époque-là, c'était des noms qui étaient là pour dire l'essence de la personne. C'est pas parce que, comme aujourd'hui, on appelle n'importe qui avec n'importe quel nom. Même si, en fait, les gens aujourd'hui, sans le dire, mais ils appellent leur enfant du nom d'un grand footballeur, ils pensent que leur enfant va devenir un grand footballeur pour ça, ou bien que le Belzerébé, le rabbi de Belz, le premier, enfin pas le premier, l'avant-dernier, pas l'actuel, celui d'avant, parce que c'était un super tzaddik et donc il s'appelait Aaron. Et évidemment, après sa mort, tous les enfants dans toutes les familles belges s'appelaient tous Aaron. Le Rav de Zurich, qui était aussi un chassid de Belz, ils s'imaginent tous que parce qu'ils vont appeler leurs enfants Aaron, leurs enfants vont devenir. Son prochain petit-fils, il s'appelle Aaron. C'est comme ça, comme à Paris, il y a des classes entières qui s'appellent Raïm Yaakov. Un jour, il y a un inspecteur qui allait dans une des classes. Il a demandé pourquoi vous appelez vos enfants, les enfants avec une autre famille. Il a regardé, il a dit, Raïm Yaakov, il y a 15 qui sont levés. Ils portent tous le même. Tous les gosses qui sont nés à l'époque-là, ils portent le nom du Rav Rothenberg, du père. Il y a des classes entières aujourd'hui qui s'appellent, bon, j'ai aussi un petit-fils comme ça qui s'appelle, Yosef Shalom, après Rabbi Yachiv, après la petite Rabbi Yachiv, dans le monde entier, les enfants sont appelés. Hein? Hein? Donc là aussi, il faut comprendre pourquoi Nimrod a ce nom-là à ce moment-là. Et en fait, il s'appelle Amraphel, ça peut se lire Amal, Pal, ouais, Fel. Et ça se décompose. Donc, Amar, il a dit poule, c'est-à-dire je te jette dans la fournaise. Paul. L'épaule, je voulais tomber. Tombe dans la fournaise. Mais quoi ce qu'il lui a dit, Paul, ton Paul? Il l'a jeté dans la fournaise. Pourquoi il l'a pas. Il aurait dû lui donner un nom dans lequel un nom qui est jette, ou bien jeter, mais pas tombe. Il semble que Chazal dise qu'en fait, toute l'intention des fameux quatre rois qui se sont donc, dans la fameuse révolte là-bas, tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait uniquement pour attraper Abraham. En vérité, ils voulaient, dit Chazal, ils voulaient attraper Abraham pour qu'on arrête de leur casser les pieds avec les valeurs d'Abraham. Abraham, il casse seulement les pieds au monde avec, il avait d'autres valeurs, etc. Tout le monde, tout se passait très bien entre eux. Et puis il y avait cet empêcheur de fonctionner, qui était Abraham. Alors, pourquoi il appelle Paul? Parce que, en fait, ça, au moment où il a, au moment de la guerre, il n'était pas encore en position de pouvoir attraper Abraham, parce que la guerre, elle a été faite pour qu'Abraham vienne délivrer Lot, en pensant qu'il va devoir faire la guerre contre tout le monde. Et là, pendant la guerre, on arrivera à le tuer, Abraham. Donc là, il n'a pas encore, c'est pas encore fait. Il s'appelle seulement Paul. Si on regarde les choses d'un peu plus près, finalement, le miracle de la fournaise, il n'a pas vraiment été explicité. Ce que Chazal disent, Ekev, Chazal dit dans le Midrash, Ekev asher pada et Abraham. Parce qu'Hachem a racheté en quelque sorte Abraham. Où est-ce qu'on voit que. Alors, ce n'est pas Hachem qui a racheté, on dit que c'est Yaakov qui a racheté Abraham. Voilà. C'est-à-dire, Yaakov, par sa conduite, c'est grâce à sa conduite que son grand-père a été sauvé. Pour qu'il y ait un Yaakov, donc on sait ce qu'il va faire, là, il fallait que le grand-père survive. Donc, s'appelle. Yaakov a sauvé, il a racheté Abraham, il l'a racheté à deux occasions. C'est par le mérite de Yaakov, c'est intéressant, c'est un mérite de Yaakov, parce que Yaakov va descendre d'Abraham, alors Abraham va avoir la vie sauve. Le Maharal explique là-dessus. Parce que le feu, il brûle le corps, il brûle toute la matière. Et plus la chose est spirituelle, moins le feu a d'emprise sur elle. Parce que le feu, il va détruire le corps. C'est pour ça qu'on dit, c'est par le mérite de Jacob. Qui appelait Kadosh, c'est-à-dire séparé, c'est celui qui était séparé de son enveloppe corporelle. C'est pour ça qu'on dit Yaakov Avinu Lomet, parce que bon, c'est son corps disparu, mais il s'identifie à son Neshama et pas à son corps. C'est pour ça qu'Abraham a été racheté. Donc, lorsque cette opération-là qui passe par Yaakov, C'est-à-dire, quand Yaakov qui a une conduite qui n'est pas du tout naturelle, c'est-à-dire, elle est non naturelle, en quelque sorte. Alors, rétroactivement, c'est un peu difficile de dire rétroactivement, mais c'est un effet sur les générations qui le précèdent. Il est sauvé de cette Kifshana Esh, c'est-à-dire le feu n'a pas eu de prise sur lui. Ça qu'on dit, Yaakov, Asher Pada et Avraham. C'est parce que Yaakov est Kadosh, donc il fait que il transmet en quelque sorte cette non-inflammabilité à son grand-père. Faut ajouter ici ce que dit le Maral sur le pasouk dans le Sefer Vayikra, Venigdashti betoch ben Israël. Hachem dit, je serai sanctifié au sein des Bnei Israël. Rashi dit, Yeshe'atem moshim atzmechem al kedushat shemi, lo ta'asu al menat she'yaseh lachem nes, ela al shelo al menat she'yaseh nes. Shirak lemi she'moser nafsho shelo al menat sanes, osim lo nes Hananiah Mishael ve'Azariah. C'est-à-dire, Venigdashti betor ben Israël, ça veut dire, les Bnei Israël feront Kiddush Hashem. Je serai donc sanctifié du sein des Bnei Israël. Les Bnei Israël se conduiront avec, enfin, pour faire un Kiddush Hashem, sanctification. Alors, Hashem a dit, quand vous sanctifiez, quand vous acceptez d'entrer dans une situation éventuellement qui va peut-être vous coûter la vie, ne le faites pas en pensant je fais ça mais Hachem va me sauver. Je fais ça pour être sauvé, ben, ça va faire un kiddush Hachem parce que Hachem m'a sauvé. Non, vous devez le faire avec l'intention. Je donne ma vie pour ça. J'abandonne mon corps en quelque sorte. Je donne ma vie pour ça. Et le Maharal explique sur ce verset, Shemi Shemoser Atzmo, Bli Cheshbonot Shel Hatzala, que celui qui accepte d'être tué le Kiddush Hashem, sans penser Hashem va me sauver, à ce moment-là, il est déjà Kadosh, pas, il a de la Kdusha, il est. Maintenant, si maintenant il est sauvé, il a déjà eu la Kedusha quand même. On n'est pas Kadosh seulement quand on a été concrètement sauvé, mais dans la démarche. Il y a cette idée qu'on a déjà entendue et qu'on entend à plusieurs endroits que certaines choses sont considérées comme faites dès lors qu'on a vraiment décidé de les faire. C'est un principe où on dit qu'Akadosh Baruch Hu, Marshava Tova, si quelqu'un a une bonne intention, Akadosh Baruch Hu la considère quasiment comme si la bonne intention était réalisée. Il avait l'intention de faire une mitzvah, au niveau de son intention, c'est déjà fait. C'est comme si c'était déjà fait.
C'est comme celui qui donne des péchés à une femme, à la nature, il se dit, on dit qu'il donne des péchés.
Oui, non, mais là-bas, parce qu'on pense qu'il a peut-être, il est peut-être tzaddik, c'est pas parce qu'il l'a dit Almenat, parce que dans Almenat, je ni tzaddik, il dit pas Almenat que je vais devenir ou que, etc. Il dit que je suis tzaddik maintenant. Mais s'il l'est pas.
C'est intéressant, c'est une condition sur.
Le problème, c'est Almenat Shani, c'est-à-dire qu'en fait, si je suis pas sadique, alors tu ne vas pas me coudéchette en tant la femme. Pas exactement la même chose.
Rav,
Oui.
Rav, pourquoi l'intention pourquoi l'intention a valeur? J'entends pas.
J'ai dit que j'étais
Pourquoi l'intention a valeur d'acte?
Vous savez, nous on pense qu'à chaque instant, quand je vous crée le monde. Donc, en réalité, nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes tout seul. Donc, la seule chose où les choses se passent, en tout cas, comme si on était là seul à le faire, on ne peut pas penser. Alors, on peut dire peut-être même penser, c'est pas comme ça, mais en tout cas, ils ont pensé, ça apparaît plus à penser, je suis, c'est, ce qu'on me demande, c'est de penser vouloir bien faire. Après, il y a plein de choses qui peuvent se passer qui font que, bon, ça, bon, peut-être ça se fera pas. Mais ce qui était important, c'est que moi, j'ai décidé de le faire. Après, il peut y avoir des empêchements et moi, je peux être, il y a toutes sortes d'empêchements possibles. Et c'est pour ça qu'on veut dire que ce qui est important dans le faire une mitzvah, c'est de vouloir la faire. Après, c'est pas toujours possible, même si, mais si vraiment je veux vraiment la faire, c'est ça qui compte. C'est cette décision de, c'est la prise de décision qui est importante. Alors, ce qui est important, c'est que c'est pas symétrique. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut faire une avéra, Hachem ne compte pas la chose comme une avéra. Donc c'est pas exactement comme je vous dis, parce que normalement, ça devrait être complètement symétrique. Bon, j'ai décidé de, voilà. Mais Hachem ne, ça fait partie du chesed, la générosité d'Hachem de ne pas compter les choses. Si on a eu la chance que, voilà, j'avais décidé de faire une avéra, mais voilà, j'ai raté le coche, c'est, bon, ça veut dire, ben, c'est pas considéré comme une avéra.
Et l'autre parole, comprends.
L'otarchmod, c'est tout à fait spécial parce que l'otarchmod, c'est le dernier des 10 commandements. C'est quelque chose d'extrêmement difficile parce que dans l'otarchmod, on est chayav, on a un interdit de convoiter, mais c'est pas, on n'est pas le droit de prendre. L'otarchmod, c'est, tu n'as pas le droit de convoiter quelque chose. Tu vas chez quelqu'un, il a un magnifique tableau. Il n'est pas à vendre son tableau. Et tu viens et tu lui dis combien c'est ton tableau. Il n'est pas à vendre. Tu n'en as pas le droit. Tu n'as pas le droit de convoiter quelque chose qui n'est pas à toi. Donc c'est très, très exigeant.
Mais convoiter, c'est à partir du moment où on propose une somme,
Convoiter en
ce qu'on
termes,
le
si
pense.
c'est dans la tête, vous n'avez pas le droit. Mais disons, concrètement, il faut que j'ai que donner comme exemple, c'est comment on sait qu'il convoite. Alors, au moins, disons qu'il y a eu cette expression de la convoitise. Je l'ai exprimé. C'est très possible que vous avez raison, que c'est déjà interdit même en pensée.
Oui, mais on ne peut pas contrôler une association d'idées. On peut se maîtriser par rapport à l'association,
Non,
mais...
parce que c'est pas tout à fait comme ça. Si c'est suffisamment clair dans votre tête que quelque chose qui n'est pas à vous, n'est pas à vous, c'est à lui.
Bah oui.
Alors il n'y a pas, j'ai pas de proposition. Pourquoi tu le prends? Il est mieux chez toi? C'est plus chaud chez toi pour
Oui.
prendre l'eau? De quoi? Non, mais juste, dans le Talmud, c'est le seul cas où c'est comme ça. Il y a des situations où, effectivement, on n'a pas besoin de passer à l'acte, si on veut, pour que ça soit interdit. Mais la plupart du temps, c'est comme ça. Il faut passer à l'acte pour que ça soit interdit. Mais ça fait partie du chesed d'Hachem, parce que s'il avait appliquer la règle de symétrie, bon, on devrait être puni pour le pour toute pensée tordue qu'on a eue de faire voilà, j'ai passé devant un restaurant et j'avais envie de j'ai vu un truc, ah, je voudrais bien manger ça, c'est interdit, ok, c'est fini, t'as déjà transgressé. C'est pas comme ça. Mais dans le positif, c'est comme ça. Le Maharal explique que donc celui qui donc qui en parenthèse, le prototype de celui qui a voulu, qui s'est sacrifié en quelque sorte, mais en pensant qu'il allait être sauvé, c'est le frère d'Abraham. Quand il a vu qu'Abraham a été sauvé, que Nimrod lui a dit, alors toi, tu es avec qui? Avec Abraham ou avec moi? Alors, il a dit, je suis avec Abraham. Et comme lui, il a pensé, ouais, on va me jeter dans la fournaise, mais je vais être sauvé comme Abraham. Et il est mort. C'est-à-dire que celui qui est Kadosh, en fait, c'est-à-dire qu'il ne vit pas selon, disons, les règles de la nature, au sens. Alors, effectivement, on se conduit avec lui avec une conduite qui n'est pas conforme aux règles de la nature. Mais si quelqu'un, bien sûr, il veut bien faire, mais il est encore suffisamment attaché à la vie, en quelque sorte, à la vie au sens de la vie physique. Et donc, il ne peut pas bénéficier d'un S qui est le contraire de la vie physique, des règles, qui n'obéit pas aux règles de la vie physique. Alors ici, il ramène que. Il dit, c'est écrit dans les quatre volumes, en vérité, c'est le Maharam de Rothenburg. Le Maharam de Rothenburg, c'est le Rebbe du Roche. C'est superstar, hein, pour les Ashkenazim. C'est le grand possède des Ashkenazim, en fait. Le Maharam de Rothenburg, il a été fait prisonnier. Pour en fait, parce que les goyim avaient l'habitude de faire prisonner des gens et demander une rançon. Et comme c'était le Maharam de Rothenburg, les goyim ont demandé une rançon plus importante que la rançon qu'on demandait pour Monsieur Tout-le-Monde. Et le Maharam de Rothenburg, il a interdit qu'on paye. Je crois qu'il était 24 ans en prison. Et quand il est mort, il ne voulait pas donner son corps non plus. Mais là, il n'était plus là, le Maharam, pour empêcher. Il y a quelqu'un qui a dit, moi, je paye à condition d'être enterré à côté de lui. Et il est enterré. Il a payé et il est enterré à côté du Maharam de Rothenburg. Le Maharam de Rothenburg, il a dit une chose. Il faut être le Maharam de Rothenburg pour dire une chose pareille. Il a dit que les gens qui meurent à Kiddush Hashem vraiment, ils n'ont pas mort, ils ne souffrent pas. Ils sont à ce point détachés de leur corps qu'ils ne sentent absolument rien. Donc, ça c'est ce qu'a dit c'est le Maharam de Rothenburg. Lui, il le ramène ici comme si il y avait d'autres qui disaient que c'est vrai pour tout le monde, donc, même pas pour tout le monde, mais pour tous les gens qui sont conquis de Shachem. Alors, étant donné que justement Avraham Avinu, il est sauvé par ce qui va se passer avec lui, plus exactement avec sa descendance, dans le futur. Ça veut dire donc que le miracle qui s'est fait pour lui au moment de où il a été jeté dans la fournaise. C'est quelque chose qui s'est fait alors que seul Hachem savait pourquoi il a été sauvé. On ne peut pas savoir. Pour cette raison que c'est pas écrit explicitement, c'est seulement dit de façon allusive dans la Torah. En quelque sorte, comme ça n'était pas encore dévoilé au moment où ça a eu lieu. Alors ça peut pas être écrit en temps réel, enfin comme si en temps réel dans la Torah. Dans le pasouk, c'est marqué Ki amarti olam chesed ibané. J'ai dit, le monde sera construit sur le chesed. Le chesed, c'est le flux des bontés d'Hachem, quoi. C'est-à-dire un épanchement illimité a priori. On dit que ce verset-là, un verset de Tehilim, des psaumes, que ce verset-là, Pasuk ze ne'emar al-yedei Avraham Avinu. Parce que, d'où est-ce qu'on sait ça? C'est que le texte, il commence, Maskil Etan Ezrachi. Et Etan, c'est un des noms de, un des deuxièmes noms d'Avraham Avinu. Yibane, c'est un futur. C'est-à-dire, ça montre que ce qui se passe se joue sur la pensée de construire un monde d'après le Chesed. C'est ce qui est marqué. Qui amarti? Amarti, ça veut dire j'ai dit, je me suis dit en fait. C'est-à-dire, comme par exemple, Shlomo HaMelech a dit, je me suis dit, je vais devenir tellement sage, je vais acquérir la sagesse, je vais maîtriser la sagesse. Bon, je vois que j'en suis encore loin. Elle est encore loin de moi. C'est pas quelque chose, il n'y a pas une déclaration. Le roi a quelque chose à dire, le roi Shlomo a quelque chose à dire, il va dire, comment? Il s'est dit, c'est dit en son sein, en son fort intérieur. Il y avait une pensée comme celle-là. Mais cette pensée que j'ai eue, je comprends que cette pensée-là, elle doit s'exprimer pour que, il va falloir que ça se réalise. Le chesed, évidemment, c'est ce qu'on appelle le shoresh, la racine de la création, la raison de, pour nous, la raison de la création. Mais l'aboutissement, c'est-à-dire, le chesed, il y a une générosité. Cette générosité, elle doit s'exprimer. Mais c'est quoi le but de cette générosité, l'achèvement de cette générosité, c'est évidemment les temps messianiques. C'est-à-dire les temps, c'est d'obtenir que l'homme soit dans la meilleure situation possible, et la situation la meilleure pour lui, ce sera d'avoir fabriqué une société qui reconnaît Hachem et qui vit selon les principes les plus importants pour lui, les meilleurs pour lui, pour l'être humain. Et ça s'appelle, c'est le cas quand on vit conformément à la Torah. Donc c'est les temps messianiques, si vous voulez. À ce moment-là, on va, ça c'est une des caractéristiques, c'est que quand on arrive au temps messianique et qu'on regarde en arrière, On comprend. Maintenant, on voit les chemins. Tu vois les chemins puisque tu les vois. Tu peux remonter le chemin et tu vois toutes les bifurcations, tous les détours qu'il a fallu faire, les retours en arrière, les boucles, etc. Mais voilà, tout ça, c'était pour en arriver là. C'est la suite, en fait, de ce psaume de Etana Ezrachi, qui est dit par Abraham Avinu. Le mot Etan, c'est un mot qui fait référence, c'est un des noms d'Abraham Avinu, mais c'est fait référence à ce qu'on appelle Evenapina. Evenapina, c'est la pierre sur laquelle était posé le Aaron dans le Betamigdash. Au premier Betamigdash, il y avait un socle sur lequel le Aaron était posé. Et au deuxième, il n'y avait que le socle, puisque l'Aaron a été caché, il a été avalé. Enfin, on l'a caché dans la terre. Donc, il n'y avait pas de Aaron HaKodesh. Il n'y avait pas d'arche de l'Alliance au deuxième Beth Amikdash. Il n'y avait que la pierre qui s'appelle Even Hapina. C'est Even Shetiya, mais c'est Even Hapina, c'est la pierre angulaire, la pierre fondamentale. C'est-à-dire la pierre de base. On a besoin de fondation, sûr. On comprend bien que c'est Abraham la fondation du clan d'Israël. Abraham qui est donc les fondements, les fondations de tout le clan d'Israël. Ils disent que les lettres qui composent le mot Eitan, Aleph Yud Tav Nun, on dit que ça veut dire Ertov, Aleph, Yirtov, Yud, Tirtov, Nirtov. Alors, mais ça va être, c'est l'écriture à tous les temps. Tout le chapitre de Tehillim en question, le chapitre qui parle de la construction de la famille royale de David. Matsati, David Avdi, j'ai trouvé David, mon serviteur. Nishbati le David Avdi, j'ai juré à David, mon serviteur. Asher Kharfu Ikvot. Donc, ça c'est, il y a les Kvitas de Meshikha, les pas du Mashiach qui arrivent, quoi. Dans le Navi Yeshaya, c'est marqué, il y a l'expression Al Chasdei David Anemanim. Les chassidim, les actes de piété, de générosité, les actes de David Anemanim. Neeman, ça veut dire fiable. Ça veut dire le chesed qu'Abraham a. Ça veut dire qu'Abraham, c'est le Hamoud HaChesed, comme Yitzhak est le Hamoud de la Gvoura, et Yaakov la Tiferet, le Emet, quoi. Donc, ce qu'Abraham a fondé, en quelque sorte, ce qu'il a mis à la base de sa famille et de sa descendance, quelque chose qui doit durer jusqu'à David, jusqu'au Messie. Donc, quand on dit c'est fiable, ça veut dire on peut avoir confiance que le fondement les fondations qu'Abraham Avinu a posées, elles sont tellement solides, effectivement, elles vont aller jusqu'au Mashiach en passant par David. Pour le Navi, pour le prophète, Yeshaya, la Géoula finale, le Mashiach, c'est présenté comme si c'était des naissances. Il y a une naissance de la Géoula, naissance du Mashiach. En pasouk, c'est marqué, Ichala gam yalda Tzion et Banea. Ça veut dire que Sion, c'est-à-dire Yerushalayim, Israël, va produire ses enfants, elle va, Yalda, elle va les mettre au monde. Et d'ailleurs, l'expression est bien connue, que le temps qui précède juste ce révélé Mashiach, c'est les douleurs de l'enfantement lors de la naissance du Mashiach. La règle générale, selon quoi? C'est que Yetzira, c'est-à-dire la formation, ou l'idée qui se met en marche à ce moment-là, et qui en fait n'est pas encore réalisée, c'est une espèce de potentialité de cette. On appelle ça un Nefel. Nefel, c'est l'expression, le mot qu'on utilise pour parler d'un enfant qui est né et qui pendant 30 jours a un statut de Nefel. C'est-à-dire, on ne sait pas s'il est vraiment vivant. C'est pour ça qu'on attend 30 jours pour faire le cas échéant Pidyon HaBen. On attend qu'il soit sorti de cette époque-là. Dans le monde animal, ça dure 8 jours. C'est pour ça qu'on ne peut pas amener un corban d'un agneau qui a moins de 8 jours. Faut qu'il sorte de cet état de Nefel. Et Ben Naflé, c'est une expression qui désigne le Mashiach, le fils de cette situation de Nefel. Pourquoi? Parce que il y a eu beaucoup de situations où on a pensé que voilà, c'est Mashiach, il est là. Mais ce n'était pas terminé. Donc, ça veut dire, ce n'est pas une fausse couche. C'est né, mais ça n'a pas abouti. Et donc, il sera barre de tout cela, le fils de tout ça, quand il s'en sera sorti, en fait, quand il sera vraiment vivant. C'est cette idée aussi qu'on trouve dans le Rambam, quand le Rambam décrit le Mashiach, il le décrit comme quelqu'un dont au départ on ne sait pas que ce sera lui, mais il est candidat Mashiach. C'est-à-dire, il faut qu'il passe certaines épreuves. Quand il aura passé les épreuves, on saura a posteriori, ah oui, c'était lui. Cette histoire de candidat, quand j'ai fait mes études, j'étais dans une. J'avais mon colocataire, là, oui, c'était un Israélien qui faisait des études de médecine. Et il s'est à peine inscrit en première année de médecine. Et évidemment, les candidats de médecins, ils recevaient tout de suite une tonne de documentation avec une sorte de petit cadeau de tous les labos, toute la chimie bâloise, la chimie suisse qu'il recevait. Et c'était toujours adressé, c'est marqué CandMed, candidat médecin. Il était le premier jour, chez nous, il n'était pas, moi je n'étais pas candidat mathématicien, mais lui, il était CandMed. Ça m'a toujours impressionné. C'était juste, il s'est inscrit et puis le lendemain, il avait lu la littérature pour le camp de Melbernstein. Ouais, bon, c'est ça, le Mashiach, dans ses débuts, que le Rambam le décrit, il est candidat Mashiach. Quand il aura fait ses preuves, alors il sera vraiment Mashiach. Nimrod, il est présenté comme étant le premier roi dans le monde. Et son nom de Nimrod, la racine même Resh Dalet, c'est la révolte. Il y a un livre très célèbre de Menachem Begin qui s'appelle Meretz, qui s'appelle La révolte. Et lui, pourquoi il s'appelle Nimrod? Parce qu'il a mis le monde entier en révolte contre Hachem. C'est lui l'instigateur de la tour de Babel. Cette tour qui a été construite pour lutter contre Hachem, pour chasser Hachem du monde. Il est présenté. On dit que Nimrod, Gibor, Tsaïd, Lifnei Hachem. Et Nimrod, c'est un Gibor, quelqu'un de très puissant. Tsaïd, un chasseur. Le chasseur, au sens où il est allé à la chasse pour ramener tous les gens pour se révolter, pour organiser. C'est lui qui a loué tous les autocars qui ont amené les gens sur place pour construire la tour de Babel. Comme dans les manifs où les partis, etc., ils envoient des autocars pour ramener les gens, ou bien pour qu'ils aillent voter, ou pour qu'ils aillent manifester, on les paye et on paye les autocars et on fait venir les gens. Lui, c'est lui qui a fait tout ça. Ce que Rachid dit dans son commentaire au début de Bereshit. La notion même de royauté dans le monde, une royauté, la malchoute, en fait, c'est une, si vous voulez, pour les kabbalistes, c'est une des midot, c'est une des sphirot, ouais. Donc c'est une des midot d'Hachem. Le Meller par excellence, c'est Hachem. Mais c'est pas que Hachem est Meller par analogie avec les rois du monde. La royauté des hommes, elle est une copie de la royauté du monde. Pas, je veux pas dire par là qu'ils sont rois de droit divin, mais c'est une copie pour s'opposer. On a aussi notre malchoute. Pour combattre la royauté d'Hachem. Akadosh Baruch Hu il a créé le monde pour être reconnu comme Melech dans le monde. Pour être. Oui. C'est en fait, donc, cette démarche-là, c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire pour l'humanité, en réalité, puisque c'est ça qu'Hachem, c'est ça le chesed qu'Hachem veut faire au monde. Et c'est ce qu'Avraham a commencé à comprendre. Et c'est ce qui va se réaliser, comme l'aboutissement de ce commencement fait par Abraham Avinu. Donc, quand Nimrod se révolte contre Hachem, devant Hachem, contre lui, il veut faire en sorte que l'intention, la marche avant, la pensée de Chesed, cette pensée de Chesed qui commence à se réaliser avec Avraham Avinu, il veut la faire échouer, évidemment, il veut la faire devenir Nefel, il veut la faire devenir un truc qui aboutit pas, qui meurt avant d'exister vraiment. Et c'est ça son nom de Amraphel. Amar Paul. Il a parlé, c'est-à-dire il a ameuté tout le monde, il a rassemblé tout le monde pour obtenir cette nephila, cette chute, en fait. Hachem a dit, moi j'ai dit, Olam Chesed Ibané. Moi j'ai dit que le monde allait se construire avec ce Chesed. Et Nimrod, il a dit, Paul, je vais le faire tomber. Et c'est ça, le commencement, en quelque sorte, de cette idée. Il commence à vraiment se réaliser quand les Bnei Israël sortent d'Égypte. C'est le Chesed d'Hachem qui s'est appliqué. Voilà, les Bnei Israël ont bénéficié de ce Chesed d'Hachem. Quand Hachem dit à Moshe, tout ce qui va concerner le Korban Pessah, la sortie d'Égypte, etc. Ici commence la libération, commence la version libération de Geoula dans la version sortie d'Égypte. Mais cette version-là, cette sortie d'Égypte, c'est en petit, est-ce que c'est un avant-goût, est-ce que c'est une première mouture, etc., de la Geoula finale, évidemment. C'est marqué dans les psukim, c'est marqué dans le Navi, qui met cette rame et Mitzrayim et je te montrerai des choses extraordinaires. Je vous montrerai. Je montrerai au clan Israël. La même chose que ce qu'ils ont vu quand ils sont sortis d'Égypte. C'est pour ça que le pasouk dit, Ve'aya, kitavo el haaretz. Quand vous arriverez dans ce pays, que je vous donne en héritage, Ushmartem et Avoda Azot, vous garderez, c'est-à-dire vous ferez bien attention de pratiquer cette Avoda, c'est-à-dire le Coran fait ça, Alechem Benechem, et quand vos enfants vont vous demander à quoi vous jouez, qu'est-ce que vous fabriquez là, Ma Avoda Azot Lachem, Pamartem, Zemar Pesach ou Lachem. Je fais le Korban Pessah et vous allez expliquer ce que c'est que le Korban Pessah. Et c'est pour ça que les korbanot, normalement, les korbanot qu'on apporte, si on n'a pas eu, on ne les a pas fait l'ishma, c'est-à-dire on n'a pas fait la shrita et la avoda, le shem ce korban spécifiquement avec les kavanot nécessaires. C'est cachère quand même. Sauf le Korban Pessah, il y a patate aussi, mais le Korban Pessah, c'est pas cachère. Le Korban Pessah, il faut l'avoir fait, le Shem Korban Pessah. Si tu le fais pas, avec l'intention, voilà, cette bête-là, je fais tout ce qu'il y a à faire avec cette bête. Je le fais pour parce que c'est un Korban Pessah, je vais le manger en tant que Korban Pessah. Il ne fait pas ça, hein, il n'est pas caché comme Korban Pessah. Ce qu'il dit, Zevar Pessahou l'Hachem. Le Korban Pessah, il doit être fait pour Hachem. Toutes choses égales par ailleurs, on entend bien que il s'agit d'un corban, c'est-à-dire un sacrifice. Et les sacrifices en Égypte, il y en avait tous les jours. Hein. C'était peut-être pas des sacrifices d'agneau, parce que c'était ça, c'est comme les vaches sacrées en Inde. Mais des sacrifices, il y en avait tout le temps. Et par conséquent, faire un sacrifice pour des gens qui sont habitués au sacrifice égyptien, ça n'a rien de particulier. Sauf, et c'est pour ça que ça doit être comme ça, sauf si on le fait le Shem Hashem. C'est pour ça que ça doit être fait vraiment le Shem Hashem. Si tu le fais comme ça, d'ordinaire, quand tu fais un korban et tu n'as pas une grande kavana, c'est pas très grave. Ne vas pas. Alors, sauf le korban khatat, ça doit être pour une certaine faute, donc ça doit être clair. Mais sinon, kol hazvachim shenishbechu shelo lishman, c'est la première Mishnah dans la Masechet Zvachim, shérim. C'est kasher. Mais là, c'est pas kasher. Parce que sinon, c'est un korban. Ah, sinon, ça risque de ressembler énormément à la Avodah Zarah. On peut expliquer que, étant donné que c'est un commencement, c'est un enracinement. Alors, ça doit obligatoirement être fait avec la bonne kavana. Ça, c'est toujours la différence qu'il y a entre, dans la construction, quand vous faites les fondations, si vous trompez un tout petit peu, vous fabriquez la tour de Pise. Quand c'est beaucoup plus haut que vous vous trompez, ça a beaucoup moins d'importance. Mais au niveau des fondations, on ne peut pas se permettre le moindre écart. Sinon, si on veut qu'effectivement ça donne les fruits qu'on espère, qu'on vise, alors il faut faire extrêmement attention. Par conséquent, quand on lui répond à celui qui a dit cette phrase-là, et on répond autrement que ce qui est écrit dans la Torah. Et on répond, Ve'ata ake chinav, agace-lui les dents, là. On casse-lui les dents, je sais pas. Ah, maintenant, on lui répond comme ça. Finalement, Kineged Arba Banim, dit la Torah. Finalement, comme tout, enfin, c'est ce que vous avez probablement dit des années aussi au CNR, il y a pire que lui. Le cinquième fils, il n'est pas là. Lui, il est en boîte ce soir-là. Il n'est pas à la table de Pessah. Lui, il est quand même là à la table de Pessah. Il est là avec son impudence, son côté moqueur éventuellement, etc., tout ce que vous voulez. Mais il est là. Donc finalement, il y a quand même une possibilité de faire tchouva. C'est pas sans, bah, que l'autre est définitivement perdu, mais l'autre, il est très très loin. Il n'est pas là du tout. Cinquième. Y a quand même une metziout, une réalité, une possibilité que ce rachat à table, celui qu'on appelle le rachat à table, là, que lui fasse tchouva. Et c'est pour ça que dans le passouk, c'est marqué, ils se sont prosternés quand on leur a annoncé, vous allez avoir des enfants. Et vous allez leur dire, Zevar Pesach Hu Lachem, jusqu'à un tracé David à Némanim. C'est-à-dire, il y aura des enfants, on va arriver, grâce aux enfants, on va arriver à la Géoula finale. Il faut qu'il y ait des enfants tout au long de l'histoire. S'il n'y a plus d'enfants, si les enfants s'en vont, on n'arrivera pas au bout. Dans le Corban Pessah, on doit faire un Corban qui est Sli Esh. Il doit être grillé au feu. C'est pas simplement une grillade. On veut que ça soit grillé au feu, ça veut dire on veut qu'il soit grillé de tous les côtés. Par exemple, on ne peut pas prendre une broche en métal. Parce que la broche en métal, elle va se chauffer. Et donc la viande qui est sur la broche, elle va cuire, elle ne va pas griller. Donc on prenait des broches en bois, en fait. C'est un bois qui met du temps à brûler. De telle sorte que même de l'intérieur, c'est aussi grillé. C'est pas cuit de l'intérieur. Sli-esh. Hazal disent pourquoi Sli-esh. En Midrash, c'est marqué, Bishvil Avraham Avinu. Lui, il aurait dû être brûlé, Be'esh, dans le feu de Oukazdim. Ça veut dire que dans le Korban Pessah, la façon dont on va griller le Korban Pessah, on va l'apprêter, donc. Il y a un remèze à l'épreuve, enfin, à la tentative de faire échouer le projet avant même qu'il ait commencé, quasiment. C'est pas un projet, il y a eu des sabotages au milieu. Il voulait même pas que ça commence. Et c'est de ça qu'on parle quand on pense que le soir du Seder, on allait manger cet agneau pascal, on allait le manger tsli-esh. C'est ça la kpeda. Il y a d'autres raisons pour lesquelles ça doit être grillé. Mais il y a un remède sur ça. Disons, il faut le lire de cette façon-là. Mais en fait, Abraham, il n'a jamais été grillé. Il a été sauvé par le mérite de Yaakov. Il dit Yaakov, Asher Para, Asher Pada, est Abraham. Yaakov qui a racheté Abraham. Ça doit être Saloui, grillé. Il ne s'agit pas de fabriquer des cendres. On ne va pas le griller jusqu'à ce que ce soit la cendre. C'est grillé de telle sorte qu'on veut le manger. On veut pas. La grillade, c'est le mode de consommation de cette viande. C'est-à-dire, il y a là la caractéristique du feu. Le feu est capable de, effectivement, il peut amener la nourriture à être complètement, parfaitement consommable. Et en même temps, il peut aussi amener cette nourriture à devenir de la cendre. Le feu, dans le cas du Korban Pessah, c'est fait pour amener les choses à terme, pour pouvoir les consommer. pour ça que c'est marqué Lotochlumimenuna. Vous n'allez pas manger cette viande en carte à moitié crue encore. Il faut vraiment la manger grillée. C'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'au bout du processus. On ne peut pas faire les choses de façon prématurée, quoi. C'est-à-dire, on ne peut pas les enlever, les manger de façon prématurée. Faut le manger vraiment grillé et pas, voilà, on est capable de manger les choses qui sont moins grillées, moins que grillées, un peu grillées, mais pas beaucoup. On n'a pas le droit de le manger comme ça. On n'a pas le droit d'être Atochlumimenouna, hein, ça veut dire à moitié grillé seulement. Bon, ce corban-là, en fait, on ne veut pas, a priori, qu'il soit la nourriture de la soirée de Pessah. Comme viande du repas, on a un chagiga, on a korban simcha, chagiga, on a de la viande. Ça, on va pas le manger pour se nourrir en quelque sorte. On va en manger un kézaït, mais on va manger ce kézaït alors qu'on est déjà rassasié. C'est-à-dire, on ne veut pas que le korban soit fonctionnel. Il n'est pas là pour nous nourrir. On va le manger, mais pas pour le manger. Il va être mangé presque comme un dessert, quoi. Comme quelque chose qu'on mange, on n'a plus faim, mais on mange pour le plaisir. C'est comme ça qu'il doit être mangé, le korban pessah. On le mange, comme on dit, à la sova. Je me suis déjà rassasié et je mange. Mais il ne faut pas non plus que ce soit quelque chose qu'on mange alors qu'on n'en peut plus. Bon, sinon, ça s'appelle ce qu'on appelle Achil Agasa. Vous savez, il y a une façon de manger à Yom Kippour, bon, avec laquelle on n'est pas chayav. On n'a pas transgressé Yom Kippour. Si vous avez fait une souda, Erev Kippour, Kippur Souda, et quand vous en pour manger, mais... et maintenant vous entrez dans Kippour et vous mangez. Le pachayav. On n'a pas le droit, hein, mais le pachayav. Parce que ça s'appelle pas manger. Ça s'appelle achila gassa. C'est une achila grossière. Pas, c'est grasse. Et donc le korban pessah, il ne faut pas non plus qu'on le mange parce qu'on n'en peut plus. Bon, nous, malheureusement, on ne mange pas, je ne sais pas ce qui va se passer cette année, mais a priori, on va pas se lever, je ne sais pas comment il faut dire, on ne va pas manger du korban pessah. Donc nous, c'est la ficomane. Si on veut faire jouer à la ficomane le rôle du korban pessah, alors il faut se débrouiller pour qu'on puisse encore la manger, cette ficomane, parce que souvent, c'est limite, quoi. D'abord, des fois, on est pris par le temps. Il faut manger ceux qui veulent manger avant Hatsot, ou bien il faut faire un tnaï, bon, ce sont des trucs. Donc là aussi, ça implique, du coup, le repas du Seder, il doit avoir une certaine tenue, parce que d'abord parce qu'il faut aussi, encore, il y a encore deux coupes de vin à boire après le repas. peux boire autant de vin que tu veux pendant le repas, mais il faut savoir qu'il y en a encore deux derrière. Et là aussi, si on boit et qu'on est écœuré, on n'en peut plus, ça s'appelle pendant pas boire. Donc, du coup, ça veut dire que là aussi, c'est rétroactif, c'est-à-dire parce que je dois savoir que j'ai encore deux coupes à boire et que j'ai encore une afikoman à manger, alors quand je mange, je dois y penser. Je ne peux pas aller jusqu'au bout et de cocher, me lever de table et ensuite faire. Bon, après, on peut somnoler pendant à partir de la carte Amazon, somnoler, se réveiller, boire le troisième et le quatrième. Donc il faut faire attention. C'est-à-dire que du coup, ça, parce que c'est ça l'histoire, c'est qu'il faut arriver au bout. Donc il faut arriver aussi à, dans toute la mesure du possible, à Hachem envoie des enfants, ben, les préparer à être des maillons de la chaîne qui mène jusqu'à Mashiach. Nous aussi, on va veiller que nous aussi, on soit des maillons pour que nos enfants puissent en être. Voilà ce que je voulais dire là sur. Enfin, ce que j'ai dit, c'est essentiellement. Enfin, ce qui était bien dans ce que j'ai dit, c'est rien de lui.
Yeah.